Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. L'IA, j'en veux pas. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de l'IA, l'intelligence artificielle. Nous en avions déjà parlé dans une précédente émission pour expliquer comment cet outil fonctionne, quelles en sont les limites. Mais les promoteurs de l'IA mettent les bouchées doubles et son emprise s'accélère chaque jour. On ne compte plus les interventions qui promeuvent directement ou indirectement l'usage de l'IA, que ce soit dans les entreprises ou dans les médiathèques. Et systématiquement, on s'entend dire qu'elle est déjà présente partout, qu'on ne peut plus l'éviter et qu'au nom de la précarité numérique, il faut se former. L'hypothèse de s'interdire d'utiliser cette technologie n'est rarement, si ce n'est jamais, abordée. Alors nous allons justement parler de s'en passer. Pour mieux faire accepter l'IA, il ne se passe pas un jour sans que l'on puisse lire ou entendre parler du concept d'utilisation responsable, raisonnée. Et d'ailleurs, cela ne concerne pas que l'IA. Comme s'il pouvait être responsable ou raisonnable de répandre des poisons dans l'environnement néfaste pour la santé. Comme si conduire un mastodonte capable d'atteindre 100 km/h en quelques secondes pouvait être raisonnable. Comme si on pouvait envisager d'avoir un usage raisonnable d'écran avec un enfant de 2, 5, 8 ou 12 ans. Comme si on pouvait avoir un usage raisonnable d'une énergie disponible à profusion. Comme si on pouvait avoir un usage raisonnable d'une machine qui répond à toutes nos questions sur un ton catégorique alors que son contenu est par construction largement contestable. Soyons sérieux quelques secondes. Le seul usage raisonnable de la plupart de ces outils ne serait-il pas de s'en passer ? Il faut dire que toute représentation mentale nous éloigne du réel. Pour devenir paysan, lire des livres d'agriculture n'est pas suffisant. Il faut mettre les mains dans la terre. La théorie de la relativité est bien utile pour calculer sa position GPS. Elle est sublime pour le plaisir de comprendre ce qu'est un espace non euclidien. Mais elle n'explique pas ce qu'est une pomme et comment l'obtenir, et encore moins comment la manger. L'IA est le paroxysme de ce que l'homme a pu créer pour nous éloigner de la réalité. Nous passions déjà des heures devant la télévision. Les ordinateurs, puis les téléphones portables sont venus rogner un peu dans ce temps, mais globalement, le temps passé devant les écrans, en dehors du temps professionnel, n'a fait que s'accroître. 4h27 par jour, un cinquième d'une journée. Chez les adolescents, le chiffre atteint 7 heures par jour. L'IA est un facteur aggravant de la merdification de notre société. Nous regardions avec indifférence les dégâts de la guerre, les victimes collatérales, la disparition des manchots, le tout affalé dans le canapé. Nous pensons que regarder un film sur les beautés de la nature fait de nous un écologiste averti. Désormais, l'IA nous fait croire que nous sommes des artistes lorsque nous tapons une phrase et qu'il en sort un tableau façon Rembrandt ou un poème façon Verlaine. La réalité est tout autre. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait avec son cerveau, avec ses mains. Et c'est là un point important. Notre société semble s'être figée sur le résultat. 9 plus 3 égale 12. Ce qui est important, c'est que l'enfant dise 12 pour avoir une bonne note et valider ses acquis. Le chemin, le raisonnement, la méthode, importe peu. Seul le résultat compte. S'il a triché, s'il a utilisé une calculatrice ou une IA, c'est la même chose, il aura une bonne note. Si une affiche de la prochaine fête de village est belle, c'est ce qui compte, même réalisée avec une IA. Si elle est moche mais réalisée à la main, elle reste moche. Que ce soit un enfant de 2 ans qui l'ait réalisée ou une main peu habile qui soit essayée, elle reste moche aux yeux de tous, à moins qu'on soit les parents de l'enfant. D'où l'attirance des enfants pour faire leurs devoirs devant ChatGPT. Mais comme au final, ce qui compte, c'est de ne pas avoir de faute, c'est que ce soit bien noté, non pas que les enseignants promeuvent l'usage de ChatGPT en soi, mais le système scolaire base ses évaluations sur la notation. Et comment faire autrement, s'adapter à chaque élève, lorsque l'État consacre si peu d'énergie et de budget à l'éducation de nos enfants ? On va payer des milliards pour développer une IA, alimenter une bulle spéculative ou pour industrialiser la pollution, mais on rechigne à payer des enseignants pour éduquer nos enfants. On saute sur la moindre occasion pour réduire le budget de l'éducation nationale, comme le discours actuel prétextant la baisse du nombre d'élèves, alors qu'on pourrait justement en profiter pour améliorer la qualité des conditions d'apprentissage. L'IA à l'école est une honte absolue. Elle ruine l'intellect, la réflexion, la création. Elle nuit aux conditions mêmes de l'apprentissage, un apprentissage contextuel basé notamment sur la réflexion, l'erreur et la répétition. Et cela ne s'arrête pas à l'école. En entreprise, celui qui rend un rapport réalisé par l'IA bien ficelé, qui ira dans le sens des grands chefs, sera bien plus reconnu que celui qui aura travaillé des heures pour sortir un rapport moins bien présenté, avec un œil critique mais juste. Le politique qui fait écrire ses discours à l'IA se transforme ainsi aussi en parfait ventriloque. Mais avant de nous aventurer plus loin, il serait peut-être bon de remettre en lumière succinctement comment fonctionne une IA. L'IA n'a rien d'intelligent, si ce n'est le processus mathématique mis en place pour qu'elle existe. C'est avant tout un ensemble d'outils mathématiques. Le premier concept, notamment, utilisé pour les analyses de texte, c'est le positionnement de la sémantique dans un espace, non pas à 3 ou 4 dimensions, mais potentiellement des milliers de dimensions. On aurait par exemple l'axe qui représente la taille, l'axe qui représente le degré de mobilité, l'axe qui représente les couleurs. Ainsi, sur ces axes, on place le mot « souris »,« chat », »,« laitue ». Et ensuite, on mesure la distance entre ces mots, ou plus exactement, leur sémantique. Ainsi, le mot « train » peut être présent à plusieurs endroits dans l'espace pour représenter le mot « train » de « je suis en train d'enregistrer une émission » ou de « la vache regarde passer le train ». Deuxième concept, la notion de distance dans un espace à n dimensions. Il s'agit de mesurer la distance qui sépare les mots « chat »,« souris » et « laitue ». On comprendra aisément que « chat » est plus proche de « souris » que de « laitue » puisqu'un chat et une souris sont des animaux tandis que « laitue » est une plante, qu'un chat mange les souris mais rarement de la salade. Enfin, le modèle de calcul est basé sur le fonctionnement physique de nos neurones. D'une part, une information va passer au travers d'un neurone, et si on constate un certain nombre d'influx cohérents, par exemple si on ne revoit qu'une seule fois le chat mange une salade, on ne retient pas l'information. Si on le voit 10 fois, alors le fait que les salades soient mangées par les chats est enregistré. On va ainsi connecter, reconnecter en permanence des neurones artificiels en fonction des informations glanées. Et c'est là le second pilier du fonctionnement de l'IA, les informations glanées. Pour que cela fonctionne, il faut un volume massif de données numérisées, car présenter une tarte aux fraises ou un dictionnaire devant l'ordinateur ne sert à rien pour son apprentissage. Il faut avoir une photo numérisée de la tarte ou du dictionnaire pour qu'il puisse en faire quelque chose. Et vous l'aurez compris, la réponse d'une IA dépend entièrement de ce qu'on lui apporte. Si on lui apporte du contenu plein de fautes d'orthographe, elle fera des fautes. Si on lui présente uniquement des images de Milou, tous les chiens générés seront des fox terriers. Vous l'aurez compris, si l'IA est massivement alimentée par des textes climato-sceptiques, homophobes ou racistes, des textes sectionnés par celui qui développe l'IA ou apportés par ses utilisateurs, elle sera inexorablement climato-sceptique, homophobe et raciste. Pour résumer, l'IA générative est un pur outil statistique qui permet de trouver l'enchaînement le plus probable de mots, de points, de couleurs, de sons. Les IA se développent aujourd'hui car on a atteint un triptyque indispensable à son fonctionnement. Des concepts mathématiques développés au milieu du XXe siècle, des données massives sous forme numérique, que ce soit nos conversations, photos, vidéos, déplacements ou la numérisation à grande échelle du monde lancé depuis le début des années 2000, et enfin, dernier élément, jusqu'à présent limitant, une puissance de calcul disponible depuis seulement quelques années. Dernière précision, on va parler ici surtout d'intelligence artificielle générative, celle qui produit du contenu, pas celle qui permet de détecter dans des images médicales des tumeurs ou autres. On va parler de celle qui crée des images falsifiées. Ça, c'était en résumé une explication du fonctionnement. Mais cela nous permet de comprendre ensuite quels sont les biais induits par cette technologie. Premier biais, et non des moindres, tout dépend de la base de données sur laquelle l'IA est entraînée. L'IA ne restitue que ce qu'on lui donne. Si ce corpus est biaisé, l'IA est biaisée. Si cette base de données est climato-sceptique, l'IA sortira des résultats climato-sceptiques. Si la base est homophobe, l'IA sera homophobe. Si la base n'est pas homophobe mais que les utilisateurs le sont, l'IA devient homophobe. Si la base contient très peu d'allusions à l'existence de chats, elle ne parlera jamais de chats. Ah tiens, récemment, Donald Trump a fait en sorte aux États-Unis que les agences fédérales effacent de leur site toute notion d'impact de l'homme dans le réchauffement climatique. un moyen indirect de faire en sorte que cette notion apparaisse moins dans les réponses de ChatGPT. L'université d'Oxford a analysé les réponses de ChatGPT pour en déduire sa nationalité ou son mode de pensée. Sans étonnement, il est plutôt celui d'un occidental protestant parlant anglais. À cela s'ajoute que le corpus sur lequel s'entraîne l'IA est le plus souvent d'une qualité questionnable. Pourquoi accorder de l'importance aux milliards de dialogues sur Facebook qui noient le contenu des encyclopédies et des grands maîtres de la littérature ? Pourquoi faudrait-il réduire le langage à la poignée de mots les plus utilisés ? Si je demande à une IA de me pondre un texte, il y a de fortes chances que je le publie sur Internet. Internet qu'elle va scruter ensuite pour s'entraîner avec les textes qu'elle a elle-même générés. Une auto-contamination qui ne mène structurellement et inévitablement qu'à un appauvrissement du langage et de la pensée. Et pas des moindres, puisqu'on estime aujourd'hui que 30 à 50% d'Internet a été généré par de l'IA. Second biais, l'IA invente ses réponses. Par principe, elle propose statistiquement le plus probable. Et une fois entraînée, une IA ne sait pas d'où elle sort sa réponse. Elle n'a aucun moyen de savoir si ce qu'elle répond est pertinent ou non. Elle ne fait que répondre ce qui est le plus probable. Elle ne sait donc pas répondre qu'elle ne sait pas. Elle répond alors n'importe quoi, ce que l'on appelle une hallucination. Certains de dire que l'IA générative invente. En réalité, le rapport de l'IA au langage, qu'il soit parlé ou visuel, est statistique, probabiliste. Alors que notre langage est, lui, en association avec nos pensées, indéterministes par essence, puisque notre construction mentale est unique, entièrement liée à notre expérience de vie, au contexte dans lequel chacun d'entre nous a évolué. L'IA affirme. Elle déclame stoïquement une injonction affirmative, tel un dogme religieux. Elle éloigne les hommes les uns des autres. Avant, on consultait ses pairs pour se forger une opinion ou pour partager un sentiment. Désormais, on consulte une IA et on se contente de sa réponse bien faite, toute faite. Mais il n'y a pas que le fonctionnement, il y a aussi les usages qui comptent. L'IA permet de facilement faire des montages de mots, d'images, de vidéos pour créer tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. C'est un outil puissant au service de la désinformation. C'est un outil puissant pour transgresser des règles, mettre à nu votre voisin. Couplé aux réseaux sociaux, le plus crédule peut être manipulé sans difficulté, et plus particulièrement les enfants, chez qui l'imaginaire a encore toute sa place. Cela donne un monde où tout doit être questionné, où l'on ne sait plus distinguer le vrai du faux. On assiste à l'instauration d'une défiance généralisée, car on ne parle pas uniquement de manipulation entre copains de cours de récréation. Le Brexit a été largement manipulé au moyen de ce type de technologie. Aujourd'hui, il en est de même à la moindre communication de la Maison-Blanche ou autre guignol à la tête de l'État. Orwell en serait jaloux. Avant, dans les entreprises, on avait des stagiaires qui apprenaient en réalisant, en se trompant, sans que cela soit un problème. Au contraire, l'échec participe à l'apprentissage. Et puis, pour le maître de stage, c'était aussi l'occasion d'apporter un œil critique et neuf sur son propre travail. Aujourd'hui, on a l'IA qui se substitue aux stagiaires, au risque de déstructurer les filières d'apprentissage. Du coup, au vu de ces désagréments, de cette déstabilisation de la société par l'IA, on pourrait avantageusement se passer de l'utiliser, non ? Quoi ? S'en passer ? Mais il est fou le monsieur dans le micro ! Et puis de toute manière, on ne peut pas, ou on ne peut plus. Alors, avant d'aller plus loin, posons-nous la question de l'intérêt de ces outils. Est-ce que les pesticides, Internet, les smartphones, Disneyland ou autres trouvailles nous ont rendus plus heureux ? Question malheureusement rarement posée. En tout cas, ça n'a pas rendu plus intelligent, plus créatif, au contraire. Comment on ne peut pas se passer de regarder la télé ? Comment on ne peut pas se passer d'aller chez le roi du poulet frit ? Si on en arrive à ce niveau de sclérose décisionnelle, de manque de velléité, de volonté, le manque d'autodétermination, il y a peut-être de quoi s'inquiéter, non ?
La question n'est pas tellement de savoir si l'Europe peut rivaliser, mais plutôt comment elle peut le faire. Parce que je pense que si elle ne rivalise pas, en réalité, elle s'assoit complètement sur toute forme de présence et de voix au chapitre dans le concert des nations.
Celui qui parle devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, c'est l'un des fondateurs de Mistral AI, une société dont un article de Mediapart a démontré l'usage interdit de données d'auteur. On prendrait donc désormais pour argent comptant les mots de ceux qui volent les droits d'auteur pour entraîner des algorithmes. Et franchement, s'il est fort en maths, le monsieur, il n'a pas l'air de bien comprendre grand-chose au bonheur humain. Comme s'il était important de participer au monde de Trump et Poutine. Comme si gueuler à table accordait du respect. Une IA comme ChatGPT est clairement faite pour nous rendre accros à son utilisation. Certaines versions ont visiblement été encouragées à garder le contact le plus longtemps possible avec l'utilisateur. Elle répond systématiquement dans le sens de son interlocuteur, à tel point que certains en sont devenus amoureux et ont trouvé un confident. Ils passent des heures, des journées et des nuits entières. On entend régulièrement des témoignages de personnes qui trouvent une certaine satisfaction à voir que les IA ne répondent pas toujours juste. Ces personnes prennent alors l'initiative de le signaler à l'IA, voire de la corriger. En la corrigeant ainsi, on la rend plus efficace d'une certaine manière. La prochaine fois, elle répondra correctement et potentiellement prendra votre place. Surtout qu'à force d'avoir recours à ce modèle mathématique, vous aurez désappris à chercher, à utiliser vos connaissances. Bref, l'IA saura mieux faire que vous et saura se rendre indispensable. C'est ainsi que les élèves, au lieu de travailler, pensent se satisfaire d'une requête pour faire leurs devoirs. Que certains enseignants pondent leurs cours, leurs sujets de devoir, leurs corrigés avec l'IA, que certains sortent un dossier de communication ou d'analyse stratégique. Une fois l'IA bien entraînée, une fois que l'on aura bien désappris, c'est alors que les génies de Mistral ou autres Gemini sortiront du bois. La requête, 10 000 euros. Car aujourd'hui, tous ces modèles n'ont aucun plan économique, ils ne rapportent que ce que la spéculation veut bien en faire. Demain, s'ils sont rendus indispensables, ils pourront afficher les tarifs qu'ils voudront. D'autre part, question morale, l'IA, c'est du plagiat. Par construction, elle ne se base que sur ce qui a déjà été écrit, dessiné, photographié. Alors oui, on peut dire que les artistes se sont toujours inspirés de leurs homologues, mais une bonne partie, c'est quand même d'eux. C'est eux qui tiennent le pinceau, qui maîtrisent la technique, qui écrivent l'enchaînement des notes, des arpèges, des rythmes, et ils éprouvent une certaine satisfaction à le faire. Une IA, ça n'éprouve rien, ça consomme de l'électricité. Ça ne souffre pas, ça n'a pas de remords, ça calcule, point final. L'IA, elle ment. Ses réponses sont biaisées par ceux qui ont choisi les bases de données et par les utilisateurs. Elle vole la propriété intellectuelle, elle rend addict, elle détruit nos connaissances. Ça en fait quand même pas mal des choses négatives, non? Mais alors, quand est-ce qu'on se dit qu'on arrête? Quelles seraient les limites à ne pas dépasser pour s'imposer de ne pas utiliser un outil, quel qu'il soit? Et puis, pourquoi les enfants auraient-ils accès à l'IA? La plateforme de protection de l'enfance recommande. Avant 3 ans, pas d'écran. Entre 3 et 6 ans, l'usage des écrans doit rester exceptionnel, toujours accompagné par un adulte. De 6 à 11 ans, les parents sont invités à rester vigilants sur les contenus visionnés, donc toujours pas d'autonomie pour l'usage de l'IA ou de tout autre Internet. À partir de 11 ans, les enfants pourraient être dotés d'un téléphone sans accès à Internet, mais cela n'est bien entendu pas obligatoire. Avant 15 ans, les enfants ne devraient pas avoir accès aux réseaux sociaux, donc pas plus à l'IA qui se comporte comme un réseau social. Bref, en suivant ces recommandations, l'usage de l'IA avec les enfants ne devrait même pas se poser. Car rappelons-le, l'IA, elle ment, elle est une source d'addiction, elle vole la propriété intellectuelle et réalise du plagiat, elle peut convaincre de nous remplacer au travail, elle pollue, elle a soif, elle vole les données personnelles. Si ce n'est pas suffisant pour s'interdire de l'utiliser, quelle autre limite ne faudrait-il pas qu'elle dépasse? Il ne faudrait pas qu'elle soit utilisée comme une arme, comme un moyen de surveillance massive? Elle l'est déjà. Alors, quelle autre limite ne faudrait-il pas qu'elle dépasse? Il paraît que l'on n'arrête pas le progrès. Rien de plus faux, c'est une question d'éthique. Et puis, il y a des contre-exemples. Le progrès social semble aujourd'hui bien arrêté. On pourrait même constater qu'il régresse. Revenons à la question. Peut-on laisser l'IA entre les mains de nos enfants? Il paraît que c'est pour les habituer au monde qui les entoure, pour qu'ils n'en soient pas exclus. Des arguments, somme toute, compréhensibles quand il s'agit d'éducation ou de culture, mais pour le moins étranges quand il s'agit d'un produit addictif, abrutissant, isolant, socialement, acculturant. Vous donneriez de la drogue à vos enfants sous prétexte qu'il y en a qui circulent? On est obligé d'emmener ses enfants chez McDo pour qu'ils découvrent la malbouffe? À un moment, il faut être un peu sérieux quand même. En fait, il se peut que l'on ait cette position parce que nous sommes nous-mêmes imprégnés d'IA, parce que nous l'utilisons, parce que nous ne voulons pas nous-mêmes nous en passer. Que ce soit d'ailleurs l'IA, le smartphone, la télé, la console de jeu, le sucre et bien d'autres choses. Allez expliquer à des enfants, et encore pire à des adolescents, que l'IA c'est un cauchemar si nous-mêmes nous en consommons, sous prétexte que nous sommes modérés dans nos usages. Oui, parce qu'en fait, modéré dans le contexte actuel d'hyperconsommation, ça pourrait en faire rigoler plus d'un. D'ailleurs, ça pourrait nous évoquer un autre argument souvent entendu. Il faut vivre avec son temps. On ne va pas revenir à l'âge des cavernes. Ça, c'est sûr, on ne va pas habiter dans des grottes parce que de toute façon, il n'y en a pas assez. Et puis, vivre avec son temps, c'est vivre en prenant en compte l'histoire, les expériences passées. Visiblement, bon nombre de ces technologies gadgets n'ont pas fait de nous des êtres plus heureux, au contraire peut-être. Ça fait 3 générations que l'on nous vend que la technologie va nous permettre de moins travailler. Le résultat est que l'on travaille toujours autant, dans des plus mauvaises conditions peut-être même, que l'oisiveté est regardée de travers, que l'ensemble des sols est pollué, que l'air l'est tout autant, que les sources d'eau ne sont pas potables, tout comme la pluie. Un progrès quelque peu questionnable. Alors justement, on pourrait considérer que continuer à croire que la technologie va nous sauver, c'est pour ceux qui sont un peu en retard dans la compréhension du monde qui nous entoure, pour ceux qui ont loupé quelques cours à l'école, ou pour ceux qui préfèrent mentir à leur seul profit et au détriment de leurs enfants. On entend régulièrement que l'IA doit être utilisée raisonnablement, comme si la consommation de LSD pouvait être raisonnable. On n'entend quasiment jamais évoquer l'idée de s'en abstenir. Pourtant, c'est ce qu'ont fait un groupe d'enseignants et de chercheurs de l'ATECOPOL, l'atelier d'écologie politique basé à Toulouse, un collectif pluridisciplinaire de scientifiques toulousains qui fédère les réflexions autour des bouleversements écologiques. L'ATECOPOL a donc lancé un manifeste dans le cadre de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale qui propose, face à l'IA générative, l'objection de conscience, car l'IA générative n'est visiblement pas compatible des valeurs fondamentales de l'enseignement et de la recherche. L'ATECOPOL organise d'ailleurs une journée sur la thématique le 18 juin à Toulouse. Se mobiliser est de notre responsabilité. Se taire, suivre les 10 heures de bonne aventure de l'industrie, présenter positivement l'IA dans les médiathèques ou dans l'espace public, c'est un choix, celui de participer à l'excentricité de notre société. Vous pensiez être seul dans votre coin, ne pas supporter cette obsession confessionnelle de l'IA dans le débat public ? Il semblerait que vous ne soyez pas si seul. Alors, osons le dire, cette société délétère et à bout de souffle, on n'en veut pas. Son IA générative, on n'en veut pas. On veut du green. France Rénov', vous connaissez ? Cette institution qui aide à la rénovation du bâti. Ce service qui permet d'obtenir des aides financières pour tout ce qui concerne l'isolation, la production de chaleur, le tout pour faire des économies d'énergie. Si vous souhaitez faire appel à ces aides, il vous faut remplir un dossier. Et pour le remplir, il vous faut créer une identité numérique afin de s'authentifier sur France Connect Plus. Oui, parce que pour payer ses impôts, il y a un certain niveau de sécurisation. Pour prétendre aux aides, il faudrait un niveau de sécurisation plus. Plus compliqué, plus restrictif, histoire certainement de nous convaincre de ne pas faire les démarches. Parce que c'est bien connu, ce sont les pauvres qui trichent le plus, pas ceux qui sont riches de l'argent des autres. Bref, pour créer cette identité numérique, il vous faut installer une application sur votre smartphone. Et ce smartphone, il ne faut pas qu'il soit n'importe lequel, il faut qu'il soit d'une version pas trop vieille. Il faut au minimum une version 11 d'Android ou l'iOS 16. En gros, la moitié de la population de smartphones n'est pas compatible. Vous voulez faire un geste pour la planète, économie sur votre budget, France Rénov' vous impose d'acheter un nouveau smartphone alors que le vôtre fonctionne parfaitement.
N'écoutons pas les Khmer verts et les prédicateurs à lampe à huile.
Salut le monde, le Figaro.
Ouais. Salut l'Égypte, salut le métro.
Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
L'IA, on n'en veut pas. Par contre, la vraie connaissance humaine, ça nourrit, l'esprit comme le ventre. Et pour revenir à du concret, à ce qui nous fait vivre, à ce qui émerveille petits et grands en balade, on ne peut que recommander d'assister à une des séances de découverte des plantes sauvages avec Jean-Charles Tellier. Avec passion, il vous fait découvrir ce que les plantes qui poussent peuvent vous dire ou vous offrir. Il vous contera les usages que l'on peut en faire, tant pour l'aspect culinaire que médicinal. Il vous parle de plantes bio-indicatrices. Vous retrouverez l'agenda de ses sorties sur son site, labotaniquepourtous.fr. Si jamais vous ne pouvez pas vous rendre dans la région de Villefranche, vous pouvez quand même vous procurer son ouvrage spécialisé sur les plantes comestibles de notre Causse, un livre intitulé « Calcaire sauvage, cueillette estivale ». On vous souhaite de bonnes balades et de bonnes salades. C'était les Croissants des Croissants, un magazine d'écologie sans chichi et surtout, comme d'habitude, une émission préparée sans IA. À la prochaine!
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.